Nous allons commencer ce culte de Pâques avec un chant. Vous allez voir donc les paroles et ce sera donc un premier chant d'introduction. Ton nom, Seigneur. Choisissons pour cette occasion du vendredi de Pâques un thème. Et cette année, nous avons donc choisi « Question vitale autour de la croix ». En lisant ou en relisant les textes bibliques, on découvre que durant les heures qui ont précédé ou qui ont suivi la croix, des gens du peuple, mais aussi les autorités religieuses et les autorités politiques ont posé à Jésus toutes sortes de questions. Et ces questions sont des questions fondamentales. Nos questions d'aujourd'hui sont d'ailleurs souvent semblables à ces questions que ces hommes ont posées à cette époque. Alors, parmi toutes ces questions que l'on trouve dans le texte biblique, nous en avons sélectionné quelques-unes pour évoquer ensemble ce que Jésus a fait pour évoquer la personne du Seigneur Jésus. Alors nous allons tout au long de cette soirée avoir des lectures qui nous rappellent ces moments très forts, inoubliables, ces moments cruciaux pour nous, nous allons avoir aussi des temps de partage et des temps de chant. Mais avant d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons, nous aussi ce soir, être à te regarder, à regarder le Seigneur Jésus. Et Seigneur, il y a aussi dans nos cœurs, et comme dans les cœurs de ces âmes d'autrefois, des questions. Et nous savons qu'il y a là, dans ta parole, la réponse à toutes ces questions. Et Seigneur, nous voulons entendre, réentendre ces paroles. Nous voulons chanter tes louanges. Nous voulons te prier. Nous voulons vivre une soirée en communion avec toi, nous voulons être bénis par tout ce que tu feras pour nous pendant ce moment, par Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous accueillons donc...
Évangile de Marc, chapitre 14. Judas, l'un des douze, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « L'un des douze, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. »
Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus dit à ses disciples « Vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures « Je tuerai le berger, et les moutons partiront de tous côtés. » Mais, ajouta Jésus, « Quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Alors Jésus lui dit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. » Mais Pierre répliqua encore plus fort, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples disaient la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané. Et comme ils parlaient, survint Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons. Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi !» Et il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite.
Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Il est de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et tu parles comme eux. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Alors il se mit à pleurer.
Alors on peut imaginer le contexte, Jésus est seul avec ses disciples, en toute intimité, comme ils ont l'habitude des fois d'être ensemble. Ils sont à table. Les disciples ont préparé la Pâque, c'est tout à fait normal, c'est l'époque. Et c'est, la différence, c'est qu'ils l'ont préparé dans des conditions extraordinaires. En effet, Jésus a donné des consignes. Suivre un homme portant une cruche et poser une seule question de la part du maître. Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Mais les disciples obéissent et ils trouvent les choses exactement comme Jésus leur en a parlé. Tout se passe bien, j'ai envie de dire. Soudain, au milieu du repas, Jésus annonce que l'un d'entre eux va le trahir, le livrer. L'atmosphère que l'on peut imaginer quiète, tranquille, paisible, se brise. On passe à une atmosphère tendue, pleine de malaise. On imagine sans mal le silence pesant qui a dû accompagner cette phrase. Et tous les disciples s'interrogent. Est-ce moi ? Est-ce moi ? Ils interrogent le maître. Alors, comme a dit Gérard tout à l'heure, dans ces questions, il y a des résonances qui nous parviennent jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut entendre dans ces trois mots ? Est-ce moi ? Alors, j'ai relevé au moins quatre choses qu'on peut entendre. D'abord, on entend la confiance inouïe que les disciples ont en Jésus. Pour eux, pour ses disciples, tout ce que dit Jésus est vrai. Ils ont préparé la Pâque exactement comme ils l'avaient prévu. Pourquoi douterait-il de sa parole maintenant ? Et aujourd'hui ? Est-ce qu'il en est de même pour nous ? Quelle confiance manifestons-nous aux paroles de Jésus ? Est-ce que nous croyons comme eux, comme ses disciples ? Est-ce que nous croyons comme des enfants ce qu'il nous dit au travers de l'héritage qu'il nous laisse dans la Bible ? Ou alors est-ce que ces paroles, les paroles de Jésus, est-ce qu'elles sont passées au crible de notre raison cartésienne, au crible de nos certitudes ? Une deuxième chose qui peut nous parvenir à travers ces trois mots, J'entends personnellement la soumission à l'autorité de Jésus, que Jésus assure, pardon. En disant est-ce moi, ils disent à leur façon, toi tu me connais, toi tu connais mon cœur, toi tu sais le mal dont je suis capable, aussi le bien que je peux faire, mais tu sais qui je suis. Tu me connais mieux que ma propre conscience, mieux que ma propre volonté. On peut voir ici que les disciples sont au clair quant à leur capacité à faire le bien, à obéir. Ils ont désespéré d'eux-mêmes, de leur propre force. Alors le jugement de Jésus, même si c'est sous la forme d'une question, ils l'acceptent. Ils se soumettent à sa parole, quand bien même cette parole est dure à accepter. Et pour nous aujourd'hui, comment réagissons-nous face à nos manquements potentiels, face à nos chutes, face à nos fautes, face à notre faiblesse? Est-ce que l'on est, comme ses disciples, capable à un moment donné de nous soumettre aux paroles de Jésus, capable de plier devant son autorité, devant ses paroles? Ou alors est-ce qu'il reste un îlot irréductible de nous-mêmes qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme dans Astérix? Est-ce que nous ne sommes pas tout le temps plutôt en train de nous dédouaner, de chercher à nous justifier? J'entends aussi dans Est-ce moi un appel au secours. Qui d'autre que Jésus pourra les délivrer de la détresse dans laquelle ils se trouvent face à cette trahison annoncée dont ils pourraient tous être capables? En demandant à Jésus « Est-ce moi ?», ils se mettent volontiers dans la position du présumé coupable. Ils se condamnent à leurs propres yeux. Ils n'attendent que de Jésus la délivrance, même pas d'eux-mêmes, même pas d'un autre disciple, même pas d'un raisonnement. Ils n'ont rien pour se rassurer. Et nous, aujourd'hui, vers qui ou vers quoi allons-nous pour être délivrés de nos fautes? De qui attendons-nous le secours? De Jésus seul? Enfin, cette question, pour finir, montre qu'ils avaient compris un mécanisme essentiel de l'Évangile. Se reconnaître pécheur, car c'est le premier geste de premier secours qui sauve. Est-ce moi, ces trois mots posés en question nous invitent, nous aussi, à dire « Jésus, si je suis pécheur, je me repens. Parce que si c'est toi, Jésus, qui pardonne, si c'est toi qui me pardonne, je sais, j'en ai la conviction que je serai vraiment délivré, que tout est à nouveau possible, que je peux vivre enfin. » Nous arrivons à l'épisode où Jésus sera renié. Encore une question terrible de la servante. La servante qui gardait la porte lui dit, en parlant à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Et parmi les disciples, s'il en est bien un auquel on n'aurait pas envie de s'identifier, c'est bien Pierre. Quel épisode terrible! Quelle chute, quel échec! Au suivi de tous! Quelle posture inconfortable! Que pouvait-il répondre à cette question? N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? On se remet dans le contexte. Jésus est arrêté. Il n'est plus trop fréquentable, plus trop politiquement correct. Ce pourrait peut-être même devenir mortel de reconnaître une association avec lui. Et Pierre, qui s'était élevé contre cette prophétie de Jésus, les autres chuteront, mais lui non. Mais cette question posée par trois personnes différentes en l'espace de quelques minutes a un effet révélateur. Vous savez le liquide qui révèle les images photographiques? Elles vont révéler au moins trois choses que j'ai relevées. D'abord, étonnamment, cette question que cette servante lui pose lui révèle qu'il est un disciple de Jésus, qu'il s'en défende, qu'il le nie. Pierre est un disciple de Jésus. Cela se voit, les autres le voient, les autres l'entendent, tu parles comme eux, ils le sentent. Mais même Pierre, semble être le seul à ne pas le savoir. Et il le découvre, une première révélation sur lui-même. Il n'en a pas encore conscience. Il n'est pas encore en pleine connaissance de ce que cela signifie d'être un des disciples de cet homme. Alors il réagit comme il peut, comme un simple homme. Cette question est le terrible, terrible révélateur des limites tellement vite atteintes des capacités de Pierre. Son courage qu'il a professé quelques heures avant n'aura duré que quelques heures. Sa détermination qu'il aurait voulu comme du granit vole en éclats après trois simples questions posées par des quidam, curieux, c'est tout. Même pas des soldats en armes. Quelle misère! Quelle chute! Pierre a puisé dans ses ressources personnelles, dans ses forces d'homme épuisé, d'avoir veillé un peu la nuit. Un homme dérouté par la tournure des événements, où est la victoire? Il est déstabilisé par la lucidité de Jésus à son égard, et s'il avait dit vrai? Et face à l'adversité, il ne souhaite finalement plus qu'une chose, c'est sauver sa peau, qu'on ne le voit pas, qu'on ne le connaisse pas. Et pour nous aujourd'hui, cette question traverse les siècles pour nous dire qu'elle est aussi un révélateur pour nous, un sérum de vérité pour tous les hommes et les femmes face à Jésus. Il n'y a pas plus de deux réponses possibles. C'est oui ou c'est non. Oui, je suis un disciple. Non, je n'en suis pas un. Mais j'aurais témoigné que je remercie Pierre ce soir, comme je me sens proche de lui. Toute la journée, je me sens proche de lui, toute la semaine même, parce que j'aurais répondu pareil que lui. Parce que je ne me sens pas toujours capable de répondre oui. De dire oui, moi aussi je suis un disciple. D'agir d'ailleurs en étant un disciple, quand l'adversité est là, évidemment. C'est facile quand tout va bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus le sait. Jésus le savait pour Pierre. Il a entouré Pierre avant et après. Et Jésus n'a pas attendu Pierre là où il pensait qu'il serait. Et de la même façon, Jésus ne nous attend pas là où nous nous fixons nos propres objectifs. Il nous connaît, il me connaît, il connaît nos limites. Et comme il a dit à Pierre, il ne s'est pas passé un lever de soleil que tu m'auras renié deux fois déjà. Il en est de même pour nous. C'est quand nous voulons aller avec nos propres forces que l'on tombe lamentablement, que l'on rate la cible et que l'on se sent tellement mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus en moi, Jésus en vous, c'est ça qui fait de moi un disciple. Et il le fait de telle façon, d'une façon tellement parfaite, que ça se voit à mes yeux, à mon propre cœur, et ça se voit aux yeux des autres. Si tant est, c'est un défi, aujourd'hui encore, que je me repose sur lui seul et non sur mes propres forces. Amen. On va chanter ensemble le chant « Liant les mains de Jésus », c'est le 229 sur « Chantons ces merveilles », on ne chantera que la strophe numéro 1. « Liant les mains de Jésus ».
Cherchait un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, il ne parvenait pas à trouver de motif valable. Finalement, il en vint deux qui déclarèrent.
Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours.
Le souverain sacrificateur se leva et dit à Jésus.
Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?
Jésus garda le silence. L'aube s'était levée. L'ensemble des responsables du peuple firent enchaîner Jésus et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains. Ils portèrent contre Jésus de nombreuses accusations.
Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur.
Mais ils insistaient de plus en plus.
Il soulève le peuple avec ses idées. Il a endoctriné la Judée, il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici.
Pilate l'interrogea.
Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse.
Apprenant qu'il relevait de la juridiction d'Hérode, il l'envoya à ce dernier qui se trouvait à Jérusalem durant ces jours-là. Hérode posa de nombreuses questions. Mais Jésus ne répondit pas un mot. Alors il le traita avec mépris. Il le fit reconduire chez Pilate. Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit.
Quel mal a donc fait cet homme ? Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'égarer le peuple. Or je l'ai interrogé moi-même devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs. Nous allons chanter ensemble pour quel péché.
posé pendant ce temps de comparution de Jésus, et qui nous disent qui est Jésus. La première, c'est Caïphe, le souverain sacrificateur. Il lui demande, je t'adjure, dis-nous si tu es le Christ, le Fils du Dieu, vivant. Ensuite, c'est le roi Hérode, Pilate, le gouverneur Pilate, qui lui dira, alors, es-tu roi? Et puis ensuite, quand la condamnation sera prononcée, les soldats qui gardent Jésus diront en se moquant de Jésus et en le frappant, allez, fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé. Et dans ces trois questions, il y a en elles-mêmes leur réponse. D'ailleurs, Jésus a dit, tu l'as dit, ou bien il n'a pas répondu. Jésus semble dire, vous voulez que je vous montre que je suis Messie, le Christ, que je suis roi, que je suis prophète, mais qui vous a mis sur cette voie? C'est vrai que Jésus n'a jamais prétendu directement être investi d'une de ses prestigieuses fonctions, d'être le Christ, d'être roi, d'être prophète. Il a enseigné, il a guéri, il a fait des disciples, il les a envoyés, il a fait des miracles, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis un jour, quelqu'un a dit, mais personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'est envoyé de Dieu. Un peu plus tard, un autre, comprenant tout à coup, dit à Jésus, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, c'est toute la foule qui criait, béni soit le règne qui vient, le règne de David. David, le roi. Alors imaginez Caïphe, le souverain sacrificateur. Lui, il exerce le pouvoir religieux. Il a été introduit dans cette fonction par une onction d'huile selon la tradition. Il incarne une religion faite d'observation, de règles, d'obéissance. Et il voit en Jésus un rival, celui que les foules suivent, celui qui déclare le pardon de Dieu en disant « ta foi t'a sauvé ». Alors que lui, Caïphe, le souverain sacrificateur, c'est lui qui est chargé d'apporter les sacrifices au temple. C'est lui qui est habilité à déclarer le pardon. Et devant lui se dresse là un homme, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, qui prétend offrir une médiation qui passe par la foi et non plus par l'autel. Pour lui, c'est inconcevable. Alors il déchire ses vêtements de souverain sacrificateur pour marquer son deuil, son impureté. C'est comme s'il s'était souillé en s'approchant de Jésus-Christ. Il se trouve qu'en faisant cet acte, Caïphe, le souverain sacrificateur, se disqualifie. Il était écrit dans le Lévitique qu'un souverain sacrificateur ne devait pas déchirer ses vêtements en signe de deuil. Et voilà qu'il le fait, parce qu'il marque par cela, involontairement, la fin d'une ancienne alliance faite de sacrifices d'animaux pour obtenir le péché. Et on assiste là à l'avènement d'un nouveau sacrificateur, qui sera lui-même sacrificateur et agneau de Dieu offert. Il sera lui-même la victime qui paye pour le péché de tous. Jésus donne sa vie. Imaginons maintenant Pilate, le représentant de l'autorité politique, face au fils de David. David, lui aussi, avait été investi dans sa fonction royale par une onction d'huile. Et devant lui, Pilate comprend que très rapidement que Jésus est innocent. Mais il comprend aussi qu'il y a des enjeux de pouvoir et des forces qui sont là en mouvement cette nuit-là, qu'un esprit de révolte murmure dans Jérusalem. Et Pilate va montrer, en se lavant les mains, que lui aussi abandonne sa fonction d'autorité. Alors qu'il sait que Jésus est innocent, il se soumet, lui, Pilate, à la volonté de ces Juifs qu'il méprise. il prononce une sentence de crucifixion. Il se lave les mains, en cela il renonce à exercer la justice, alors qu'il est devant celui qui va régner, celui qui est le nouveau roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde, du royaume de Dieu. Mais ce Jésus roi a un sceptre de justice à la main. Il accorde la délivrance par le pardon. L'autorité de Jésus, de ce roi, est souveraine. Elle ne faiblit pas. Alors on peut évoquer encore la fonction prophétique de Jésus. Dans cette cour obscure, méprisable, il est frappé par les soldats qui lui disent « Allez, fais le prophète, devine !» Il semble que ces soldats confondent ce qu'est un prophète et ce qu'est un devin. Les miracles d'un prophète ne sont pas là pour épater, mais ils sont là au service d'un message de Dieu. Les miracles témoignent de la puissance et de la vérité de la parole qui vient de Dieu. Et ce soir-là, le plus grand des miracles est en préparation. Jésus va mourir, puis il va ressusciter dans un corps spirituel. Ce sera là le plus grand des miracles prophétiques que nous attendons nous-mêmes de vivre pour trouver la communion avec le Père. Et maintenant, ce soir-là, s'ouvre une nouvelle ère pour les prophètes. Le temps des prophètes qui ont reçu l'Esprit de Dieu est terminé. S'ouvre une nouvelle ère où l'Esprit de Dieu va être répandu dans le cœur de tout croyant. Désormais, celui qui croit reçoit la vie par le Saint-Esprit et il devient une créature nouvelle. Alors, ces trois questions qui nous précisent qui est Jésus font appel à ces trois fonctions bien connues dans la tradition juive, du souverain sacrificateur, du roi, du prophète. Ces trois fonctions nous présentent qui est Jésus. Jésus est sacrificateur parce qu'il me réconcilie avec Dieu. Il règle définitivement la question du péché. Jésus est un roi qui veut régner dans mon cœur. Jésus est celui qui verse également dans mon cœur son Saint-Esprit parce qu'il veut faire de moi un enfant du Père appelé à l'éternité. Alors, Jésus, es-tu le Christ ? Oui, tu es le Christ. Sauve ma vie. Jésus, es-tu roi ? Oui, Jésus, sois souverain dans ma vie. Jésus, es-tu prophète ? Seigneur, sauveur, verse en moi ton Esprit Saint. Nous allons prendre ce chant « Homme de douleur » qui est le cantique 227 sur notre recueil « Chantons ces merveilles ».
chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié.
Pilate est un homme comme tout le monde, comme vous et moi. Et ce matin-là, il a dû se dire, mais pourquoi est-ce que je me suis réveillé? Pourquoi est-ce que je me suis levé? Déjà, sa femme qui lui raconte son cauchemar, ça c'est son problème de couple. Mais il y a ces juifs qui viennent le bassiner pour un problème religieux. Il pensait les avoir calmés, ces juifs qui avaient la réputation d'être un peu turbulents. Il avait fait quelques répressions un peu musclées, sanglantes. Non, ils reviennent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de Jésus? Parce que c'est quand même pas un enfant de cœur. Il sait que Jésus n'a pas le profil d'un conspirateur. C'est pas comme un Barabbas. S'il est là, c'est qu'il y a autre chose. Du coup, ben, c'est pas son affaire. Alors c'est vrai que c'est pas un tendre, mais quand même... C'est pas tellement condamner un innocent qu'il gênerait, mais c'est quand même, il n'y gagne rien à le condamner. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose qui lui arrive ce matin-là? Eh bien cette question, Pilate peut-être ne s'en est pas rendu compte, mais c'est une question qui va être posée à tous les hommes, depuis lui jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors voilà ce qui s'est passé donc dans cette année 30 et quelques à Jérusalem, enfin la fête de Pâques. Et qu'est-ce que maintenant tu vas faire de Jésus? C'est un message qui se renouvelle donc depuis près de 2000 ans. Alors les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ont répondu à cette question. J'ai fait de Jésus mon sauveur, celui qui par son sacrifice a obtenu grâce, pardon définitif pour mon péché. Et on pourrait en tant que chrétien penser que cette question est donc réglée pour nous, et elle est donc ne concerne plus que les autres. Les païens, ceux dont nous faisions partie avant. Je prends juste quelques paroles de Jésus que vous connaissez, telles quelles. Jésus disait « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. » Il dit aussi « Quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Il dit, quand quelqu'un lui demandait « Mais voici ta mère et tes frères sont dehors. » Jésus dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère, et ma mère, et ma sœur. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Et vous savez que c'est cette image que Jésus donnait un peu avant la Pâque, où il parlait de... Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les Juifs lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu ? Quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ? Avoir soif et avons-nous donné à boire ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Jésus a dit à Pilate, c'est noté dans l'évangile de Jean, « Ceux qui me livrent à toi sont plus coupables que toi. » Et c'est vrai que nous ne sommes pas ni coupables ni responsables de tout ce qui se passe, les tragédies, les misères, les massacres et toutes les autres plaies qui nous entourent. Et du coup, on pourrait faire comme Pilate, qui lui non plus n'est pas responsable de ses problèmes religieux. On peut se laver les mains. On peut aussi voir dans ces situations qui nous entourent, essayer de trouver Jésus. Pilate aurait aimé briller, monter dans les plus hautes sphères. Malheureusement, à cause de sa cruauté, il va avoir quelques déboires. Et sur la traduction, théoriquement, il devrait s'être suicidé. Pourtant, Pilate est resté dans l'histoire mondiale. Je ne sais pas si on faisait une enquête qui pourrait citer plusieurs empereurs romains, peut-être César, Auguste, Néron, même Vespasien n'est plus trop d'actualité. Et pourtant, Pilate est cité dans le monde entier, dans le Credo. Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate. Pilate est resté et connu pour avoir peut-être posé, c'est vrai, cette question devant Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Mais aussi sa lâcheté, il s'est lavé les mains. Peut-être nous cherchons à briller, et peut-être la réussite personnelle, au point de nous laver les mains de situations dans lesquelles nous aurions dû voir Jésus. Je vous propose de chanter le chant « Au tribunal, Jésus se tient » et nous chanterons juste les strophes 1, 3 et 4 qui apparaissent.
Ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui qui est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ déjà la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remis mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait.
La croix, la crucifixion. Quel sens ? On vient d'entendre le récit de la mort de Jésus. Ce supplice de la croix que les Romains utilisent pour condamner les criminels. Jésus est-il un criminel? Certainement non. Alors pourquoi cette mort sur la croix? Qui est ce Jésus? Ça nous a été dit avant, Jésus c'est le Christ. Le Christ, ça veut dire c'est le Messie, et littéralement ça veut dire c'est loin. Celui qui sauve. Voilà, celui qui sauve, le sauveur du monde, qui est sur cette croix et qui meurt. Et tout au long du texte qu'on vient d'entendre, une seule question revient. Une seule question est là, posée 3 fois, dont 1 fois directement à Jésus. Sauve-toi toi-même. D'abord au verset 35. Par les magistrats, puis au verset 36, par les soldats, puis directement à Jésus par le brigand, au verset 39 qui lui dit « Si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous » Voilà une question, voilà une réaction que toute personne aurait eue à côté de Jésus. Et voilà une réaction que toute l'humanité, que tout être humain porte. Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? On attend de Dieu qu'il fasse des choses extraordinaires. On attend de Dieu qu'il fasse un miracle extraordinaire sur cette terre. Quand on est dans une position difficile, quand on est en difficulté, quand même si tout au long de notre vie on n'a jamais regardé à Dieu, quand à un moment donné ça va mal, eh bien, on regarde à Dieu, même si on n'y croit pas forcément vraiment, on regarde quand même et on demande à Dieu quelque chose d'extraordinaire. Un miracle que l'on ne voit pas chaque jour. Alors Jésus était capable de faire ce miracle. Là, les gens qui l'entourent, les gens qui l'ont fait condamner, même certains de ses disciples attendaient quoi de Jésus? Attendaient qu'il rétablisse le royaume d'Israël et qu'il chasse les Romains. Ça, c'était la délivrance qu'ils attendaient. Et tout cela, Jésus, il pouvait le faire, et même plus encore. On voit à travers les évangiles tous les miracles que Jésus a pu faire tout au long de sa présence sur terre. Alors, comment le Messie, le Sauveur, peut-il se laisser tuer sans réagir? Cela dépasse un petit peu l'entendement humain. Pourquoi tant de passivité? Et la mort de Jésus est-elle vaine? La mort à la croix de Jésus n'a-t-elle point de sens?
et elle peut être vaine. L'apôtre Paul nous en parle dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 17. Non, la mort de Jésus n'est pas vaine, car le plan de Dieu dépasse l'imagination humaine, dépasse ce que les hommes en premier attendent, une réponse rapide et immédiate. Le plan de Dieu est encore plus grand. À la croix, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, accomplit bien plus que ce qui l'interpelle pourrait penser. À la croix, Jésus accomplit l'œuvre la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Lui, l'innocent, terrasse par sa mort sur la croix le plus grand des ennemis, le péché. Il meurt pour nous. Il terrasse l'ennemi le plus difficile, l'ennemi qui régit le monde, l'ennemi qui fait que la maladie est là, que les catastrophes sont là, que les peines sont là, que la dispute est là, que le malheur est là. Jésus, l'innocent, meurt pour nous, meurt pour notre péché. Et par cela, il nous permet de nous présenter devant Dieu, nous qui sommes impurs, indignes, coupables. Nous pouvons maintenant nous présenter devant Dieu. Alors, quelle est notre position face à la croix? Quel sens a la croix pour nous? Est-elle une folie? Comme l'apôtre Paul nous le répète en 1 Corinthiens 1, 18. Est-elle une folie? Certainement, à vue humaine, la croix est une folie. Elle est folie pour l'incroyant, folie pour ceux qui ne croient, pour celui qui ne croit pas. Sommes-nous prêts à saisir le salut que Dieu nous offre? Et la réponse de Jésus est imminente. Au deuxième brigand qui reprend celui qui a interpellé Jésus en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Jésus apporte une réponse immédiate. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, Jésus veut que nous soyons avec lui. À la croix, Jésus accomplit tout parfaitement. Et devant cette croix, devant ce sacrifice, il nous faut prendre position. Est-ce que la croix sera vaine pour nous? Est-ce que la croix restera une folie? Ou est-ce qu'elle sera l'endroit où nous allons plier le genou et rencontrer notre Dieu? Je vous invite à inviter la chorale à s'avancer. Elle va nous interpréter un chant rédempteur adorable.
Thank you.
s'invite tout de suite à enchaîner par un autre chant tous ensemble. Ce sera le chant « Dieu, quel amour pour moi, quelle patience », qui est le numéro 243 sur « Chantons ces merveilles ».
Se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent :
Pourquoi cherchez-vous parmi le vivant ? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour.
Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres. Avec elles le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes.
Ce sont des femmes et non des hommes qui sont venues les premières sur les lieux. Ce sont ces femmes dévouées qui ont servi Jésus depuis la Galilée. Par dévouement, elles voulaient aller jusqu'au bout de leur service et embaumer le corps de Jésus. Elles s'étaient attachées à cet homme Jésus qui avait apporté tant de réconfort, guérissant les malades, apportant le pardon, la vérité, leur parlant de Dieu d'une manière qu'on pouvait presque sentir Dieu ou le toucher. Comment les choses ont-ils pu tourner si mal? Leur dévouement les fera se lever alors qu'il fait encore nuit et arriver à l'aurore près du tombeau. C'est dimanche, le premier jour de la semaine. Qui pourra enlever la pierre devant le tombeau, se disent-elles. Surprise, la pierre a été enlevée. Les quatre évangiles le mentionnent. C'était plutôt un fait impressionnant qu'il ne fallait pas omettre dans n'importe quel récit. Cela pouvait être une pierre qui roulait, mais si c'était le cas, elle aurait été mise en place en la faisant rouler sur une pente qui descendait, comme pour s'arrêter pile devant l'entrée de la tombe. Ce n'était pas une mince affaire que de bouger la pierre en la faisant remonter. Mais voilà, elle était déjà bougée. Elle rentre dans le tombeau et le corps de Jésus n'est pas là. Oh ! Elles sont là avec leurs aromates dans les mains. Que s'est-il passé ? Qui a pris le corps de Jésus ? Elles sont à 1000 lieues d'imaginer l'extraordinaire qui vient de se produire. Deux hommes en habits resplendissants, étincelants, la description typique des anges. En les voyant, les deux femmes furent saisies de frayeur, elles baissèrent leur visage. Contre la terre, les gardes, eux, tremblaient de peur et ils étaient comme morts. Les anges parlent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Entendez ces mots résonner dans leur cœur. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» On regarde ces femmes, profondément traumatisées par les derniers événements, le cœur englouti dans la douleur, se demandant si c'est pas tout simplement un horrible cauchemar ce qui vient de se passer ces derniers jours. Mais toujours dévouées, attachées à la personne de Jésus, elles ont les aromates dans les mains, elles écoutent abasourdies, comme dans notre texte au verset 6 et 7. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Il vous l'a annoncé plusieurs fois. Il vous a expliqué qu'il fallait qu'il soit livré entre les mains des pécheurs. Il fallait qu'il meure la mort d'un criminel. Ceci pour payer le prix horrible de votre péché, pour enlever votre condamnation éternelle devant Dieu. Il fallait. Il n'y avait pas d'autre moyen. La justice de Dieu exiger que le prix soit payé. Jésus-Christ a payé à votre place. Souvenez-vous qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Souvenez-vous aussi qu'il vous avait dit qu'il devait ressusciter le troisième jour, la preuve que le prix de votre péché est entièrement payé. Alors, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Littéralement, dans le grec, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Jésus est le vivant, il est la vie, il a créé le monde, la vie et tout ce qui s'y trouve. Toute vie trouve sa source en lui. Par exemple, il a ressuscité Lazare, mais ce n'était pas la prouesse d'un instant, un pouvoir du moment. Il est la vie personnifiée. Il n'a pas dit « j'ai le pouvoir de ressusciter », il a dit « je suis la résurrection ». Il n'a pas dit « je donne la vie à qui je veux », il a dit « je suis la vie ». Je suis la résurrection et la vie. Vous voulez savoir ce qu'est la résurrection ? Regardez-moi, dirait-il. Vous voulez savoir ce qu'est la vie ? Regardez-moi. La vie, c'est l'essence même de Jésus. Il est le vivant. Et donc la Bible nous dit que Dieu le Père l'a ressuscité car il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Alors pourquoi croire un instant que le vivant, l'incarnation de la vie, que Dieu lui-même pouvait être retenu par la mort ? Vous voyez l'absurdité mise en évidence. Pourquoi cherchez le vivant parmi les morts. Eh oui, dans notre texte, elles se souvinrent. N'est-ce pas étonnant d'avoir oublié une parole du Seigneur si importante? Un monument. Elles l'ont zappé, oublié, enterré. Pourquoi le cœur des hommes, des femmes, pourquoi mon cœur a-t-il tant de mal à se rappeler des paroles de la foi? Pourquoi, devant la mort et la détresse, la puissance de Dieu semble si difficile à s'imprégner dans mon cœur? Pourquoi je peux entrevoir la puissance de Dieu? Oui, il donne la vie à qui il veut, mais je n'arrive pas à sonder la profondeur de la déclaration « Je suis la vie ». Je suis la vie. Jésus a bien dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il a ajouté « Crois-tu cela ?» Vous voyez, pour avoir la vie éternelle, il faut obligatoirement croire ce message. Pour avoir la vie éternelle, il faut obligatoirement croire ce message. Celui qui croit a la vie éternelle. Alors, je répète la question de Jésus, si capitale. Si tu veux avoir la vie éternelle, crois-tu cela?
Écriture. ces deux disciples qui marchaient. Jésus s'était approché auprès d'eux. Ils n'avaient pas reconnu Jésus. Et quand enfin leurs yeux se sont ouverts, quand ils ont compris qui était Jésus, alors leur cœur était bouillant. Mais comment notre cœur ne brûlait-il pas avant, quand tout était là en place et que nous ne l'avons pas reconnu ? D'important et nous le mesurons. Seigneur, en nous, tout notre être se met en résonance avec ce temps-là, avec cette œuvre-là que toi-même tu as accomplie. Il s'agissait pour toi, par un acte d'amour, de venir nous chercher. C'était pour toi ce qui était nécessaire pour payer le prix pour que puissions être ramenés au Père, que nous puissions nous tenir devant lui, sans tâche. Seigneur, ce soir nous voulons te dire merci pour la croix. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi et te contempler, et dire qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et voilà que nous réalisons, Seigneur, que tu nous appelles tes amis. Merci, Seigneur. Amen. Nous voulons chanter un dernier cantique ensemble pour ce temps que nous avons vécu dans la présence de Dieu. Bonne soirée à chacun.